Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre belle dose d'inspiration. Qu'ont en commun une Marie-Ange et une ex-Miss Canada? Ce sont d'abord deux femmes très dynamiques qui ont à cœur d'aider leur prochain. Que ce prochain soit une personne âgée seule, une femme victime de violence, un immigrant, un médecin étranger ou encore un chat abandonné. Notre première invitée, Valérie Roy, a fondé il y a tout juste 2 ans le refuge Le Cœur sur 4 pattes qui recueille des chats et des chiens abandonnés et errants dans la région d'Amos pour les faire adopter par des familles aimantes. Cette ancienne Miss Canada nous racontera son émotion lorsqu'elle reçoit des photos d'un de ses petits protégés poilus dans les bras de ses nouveaux maîtres. Quant à Marie-Ange Jeudi, elle a donné son nom à l'organisme Les Anges de l'Espoir qui œuvre auprès de groupes distincts, soit les personnes qui vivent de l'isolement communautaire et social et celles des médecins étrangers qui, eux, vivent de leur côté un isolement socio-professionnel. C'est notre programme cette semaine aux Héros anonymes. Je vous invite à découvrir 2 femmes inspirantes, chacun de leur côté. On fait une courte pause et on reçoit Valérie Roy du Refuge Le Cœur sur 4 pattes. Comment une ex-Miss Canada devient entichée comme ça des chats abandonnés et décide de s'y consacrer à temps plein? Bonjour, Valérie Roy.
Bonjour.
C'est une histoire intéressante qui est la vôtre et qui démontre tout l'engagement que vous avez dans la communauté. Mais je suis curieuse de voir un petit peu là, comment on fait ce type de parcours-là. Puis on parlera ensuite vraiment comment vous avez structuré le refuge, développé vos partenariats et autres. Donc, ramenez-moi un petit peu avant, là, comment est née cette impulsion-là de créer le refuge?
Moi, les animaux, ça a toujours été une grande portion dans ma vie. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle a toujours été impliquée avec les animaux. Là, ma mère, elle avait un salon de toilettage. On avait une pension d'animaux à la maison. Fait que les animaux ont toujours été présents, moi, dans ma vie. Là, ça a été une grande partie de ma vie. Et puis, quelques années avant de participer là, au concours de Miss Canada et Miss Glamour International, j'ai eu des gros problèmes de santé. Ah. Et puis, j'ai eu recours à un chien d'assistance.
Ah oui, d'accord.
Donc, j'ai eu un chien d'assistance qui m'a suivi pendant presque 3 ans. Donc, encore plus, les animaux, là, tu sais, c'était plus juste un animal, mais c'était bien une partie de moi.
Un compagnon essentiel pour vous.
Effectivement. Effectivement. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire, c'est juste un chien ou c'est juste un chat, mais c'est pas juste un animal. C'est un être vivant à part entière. Et puis, quand on a besoin d'un chien pour sortir de chez soi, pour aller juste au dépanneur, faire une commission ou besoin d'un chien pour aller chercher ses enfants à l'école parce qu'on n'est pas capable de sortir de la maison, puis c'est le chien qui nous aide à le faire, on se rend compte que c'est beaucoup plus que juste un animal. Et puis...
Peut-être, Valérie, nous expliquer, oui? Là, pour peut-être nos auditeurs qui sont moins familiers avec le concept de chien d'assistance. Oui? On voit souvent les chiens Mira pour les personnes, oui, qui ont des difficultés visuelles, mais dans le cas que, mm-hmm, qui nous occupe, qui est le vôtre, là, ce n'était pas un handicap, une difficulté visuelle. Comment le chien vous aidait concrètement?
En fait, moi, j'ai développé des troubles neurologiques, donc des atteintes au cerveau. Et puis, on m'a diagnostiqué aussi un syndrome de choc post-traumatique avec anxiété sévère. Donc, le chien que j'ai à la maison, ben moi, il m'aidait beaucoup là, à ce niveau-là parce que je faisais des attaques d'anxiété, panique, etc. En plus de mes troubles neurologiques, je me trouvais à faire des crises convulsives un peu, qui ressemblent beaucoup à de l'épilepsie, mais qui n'est pas de l'épilepsie. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais paralyser, faire des genres de convulsions un peu partout, n'importe quand. Donc, ce chien-là me permettait de sortir de chez moi pour pas faire de crise d'anxiété ou d'angoisse. En plein milieu de l'épicerie, elle pouvait m'aviser à l'avance. Donc, si elle sentait que j'allais faire une crise, ben je pouvais simplement me retirer au lieu de faire ma crise de panique en plein milieu d'une rangée, si on veut.
Le chien ressent ressent que la panique s'en vient, est capable de ressentir. Et vous fait quoi? Il vous touche d'une manière spéciale?
Exactement. Souvent, elle allait me donner des coups de nez. Plusieurs coups de nez pour dire attirer mon attention, dire hey, ça marche pas, puis là t'essaies de comme ben voyons, laisse-moi tranquille, puis là continue. Fait comme ça, ben là tu dis ben voyons, il y a quelque chose qui marche pas, et là tu fais le lien dans ta tête et oh ok, elle me fait signe qu'il y a quelque chose qui va se passer là, elle m'avertit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là je comprenais que oh, ça allait pas bien. Puis là effectivement, dans les minutes qui suivaient, je commençais à ressentir les effets dans mon corps qu'il y avait une crise qui s'en venait. Fait que là je pouvais simplement me retirer puis aller me mettre à l'écart plus loin pour pouvoir laisser passer la crise, là. Ouais. Fait que c'est pas juste pour les aveugles. Les gens pensent que c'est juste pour les aveugles ou les malvoyants, mais non. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilité aux chiens d'assistance maintenant, là. On les utilise aussi pour les personnes autistes, les gens qui ont des problèmes... moi, j'ai des troubles neurologiques aussi, mais les gens qui ont seulement les problèmes d'anxiété, là, l'anxiété, c'est énorme. C'est pas juste du stress, là. L'anxiété, ça peut empêcher de vivre. Donc... maintenant, pour l'anxiété, on l'utilise dans les écoles aussi avec les enfants. De plus en plus, il y a des chiens d'assistance qui sont dans les écoles pour aider les enfants qui ont des problèmes à travailler, à se concentrer, qui vivent du stress, de l'angoisse. On en voit de plus en plus des chiens d'assistance et c'est pas juste pour les personnes non-voyantes.
Mais quand vous avez décidé de fonder le refuge, c'était pas dans le contexte de développer des animaux qui pourraient avoir ce rôle-là. Non. Mais en même temps, vous saviez à quel point, ne serait-ce que la présence rassurante d'un animal, aide à, dans le fond, c'est des petites boules de bonheur.
Exactement. Et puis, je savais aussi que dans ma municipalité, c'était quelque chose qui manquait. Il n'y avait pas de refuge, il n'y avait pas de SPCA, puis des animaux errants, il y en avait beaucoup. Et puis, il y avait une personne qui avait mis un post sur Facebook disant « Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à partir un refuge à moi? »
Ah oui, et là, OK,
ben,
c'est
ça. On
est
plusieurs qui ont levé la main. Puis là, on a dit « Oui, moi, ça m'intéresse. » Et c'est parti de là. Donc, on s'est rencontrés, une gang de personnes, et puis là, ben, de fil en aiguille, une rencontre, deux rencontres, et là, on a bâti le refuge de A à Z à partir d'un post Facebook disant qui est intéressé. Et on est parti d'une gang de passionnés d'animaux, et là, on a bâti tout ça de A à Z, et maintenant, on a deux bâtiments, on a... présentement, près de 120 chats en permanence, en rotation, parce qu'il y en a qui vont se faire adopter, il y en a des nouveaux qui arrivent, mais on a en moyenne, pas mal, toujours une moyenne de 120 chats qui sont ici au refuge. On prend des chiens occasionnellement parce qu'on n'est pas tout à fait 100% installés encore.
C'est tout nouveau pour vous, les chiens, là, parce que ça nécessite des installations plus complexes, ces enclos.
Exactement. On n'est pas encore 100% installés pour les chiens. Mais c'est effectivement une grosse installation. Mais tranquillement, pas vite, là, on avance dans nos projets, mais on est parti de rien du tout à maintenant, on a deux grosses bâtisses dans la municipalité, puis on dessert 15 municipalités dans la MRC d'Abitibi.
Et tout ça en moins de 2 ans.
Oui, en moins de 2 ans, effectivement. On n'a pas loin de... On a un petit peu plus que 600 chats là, de sortie de la rue en un petit peu moins de 2 ans.
Quand on nous a fait la proposition de vous recevoir à l'émission, effectivement, je me suis spontanément demandé, mais n'est-ce pas le rôle de la SPCA? Et là, vous me dites qu'ils ne sont pas dans la région. Premièrement, qu'est-ce qui distingue le refuge du cœur sur quatre pattes, la SPCA, peut-être? Et aussi, qu'est-ce qui fait que vous avez été capable de desservir la région alors que la SPCA avait choisi peut-être de ne pas s'y installer?
Bien, en fait, il y en a dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est que nous, dans notre portion à nous de la MRC, il n'y en avait pas. Il y avait un service privé de quelqu'un. Mais ça faisait quelque temps là, que cette personne-là était malade, donc le service était plus ou moins présent. Et puis, ce qui différencie, là, dans le fond, notre rôle de la SPCA, en fait, c'est simplement une question de conseil d'administration et de règlement interne. Là. La SPCA versus un refuge, c'est une question d'appellation et de... Moi, je compare un peu avec une franchise, si on veut, quelqu'un qui veut se partir un casse-croûte versus acheter la franchise McDonald's.
Oui.
C'est un peu la même chose. Nous, on a choisi de ne pas avoir l'appellation SPCA et de ne pas s'affilier à eux parce que nous, on a choisi de dire, ben, on veut être autonome, on veut choisir notre fonctionnement à nous et ne pas avoir à devoir rendre des comptes à la SPCA, à la grandeur de la province de Québec. Donc, on voulait choisir notre propre fonctionnement. On connaît notre réalité de notre région éloignée, qui est totalement différente, en fait, des grands centres. Donc, c'est vraiment un choix personnel qu'on a fait, nous, ici, là. Parce qu'en fait, on fait exactement la même chose que la SPCA.
Mais c'est que déjà aussi, en termes de parties prenantes, il y a d'abord la municipalité qui vous a confié le mandat. Donc, c'est déjà un partenaire auprès de qui, d'une certaine façon, vous vous rendez des comptes parce que c'était pour adresser un problème, en fait, régler un problème là, de surpopulation de chats errants, si je comprends bien.
Exactement. En fait, comme je disais, on dessert 15 municipalités au travers de la MRC. Donc, tu sais, on a quand même beaucoup de municipalités là. Au niveau de l'Abitibi, au niveau de l'Abitibi, il y a 2 refuges et 2 SPCA, et on est celle qui occupe le plus grand territoire en termes de kilomètres carrés. Là.
Et comment on va parler tout à l'heure un peu du processus d'adoption, mais au niveau de la cueillette, en fait, le volet là où vous allez chercher les chats abandonnés, comment ça se passe? Est-ce que j'imagine qu'il y a différentes situations, que ce soit des chats qui sont errants parce qu'il y a une multiplication avec les différentes portées ou encore des gens qui malheureusement doivent les abandonner?
Bien, on a un peu de tout, effectivement. On a, oui, des chats errants qui vivent dans la rue ou même dans le bois parce que, bon, ici, on se cachera pas, la forêt est quand même très, très présente. Donc, les gens nous communiquent et disent, bon, ben j'ai trouvé un chat ou j'ai un chat qui vit sous mon balcon ou dans ma chaîne à bois ou ça c'est quand même assez fréquent qu'on voit ça. Et là, dépendamment de la situation, des fois les gens sont capables de les approcher, puis des fois les gens vont venir nous les porter eux-mêmes. Des fois, on doit se rendre sur place avec des cages-trappes pour parce qu'il y a des chats qui sont sauvages, c'est pas tous les chats qui sont sociables non plus. Malheureusement, il y a des abandons aussi. Il y a différentes sortes d'abandon. Il y a des gens qui vont abandonner leur animal dans le bois ou carrément dans la rue, vont ouvrir la porte, vont jeter l'animal dehors ou vont aller le porter quelque part en disant, il va se débrouiller, c'est un chat, c'est un instinct de chasseur, il va chasser puis il va survivre. Malheureusement, c'est pas vrai. C'est pas tous les chats qui ont l'instinct de chasseur, surtout si c'est un chat qui a été domestiqué dans une maison. Donc, il y en a qui survivent pas, malheureusement. Et on a des abandons volontaires que les gens, au moins, ils ont le bon réflexe de venir nous les porter ici. Donc, ils viennent nous voir, puis ils font un abandon volontaire, ils payent les frais qui viennent avec, et puis ils nous laissent l'animal, mais au moins l'animal n'a pas à se débrouiller pour essayer de survivre dehors.
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'organismes de votre secteur qui font particulièrement un appel de sensibilisation dans le temps des déménagements, là, pour qu'il y ait que ça se passe de façon la plus responsable possible.
Exactement.
Bien que Justement, on va prendre une courte pause, Valérie, puis on va parler justement de l'adoption par la suite.
Parfait.
Retour au héros anonyme avec Valérie Roy, fondatrice du Refuge du cœur sur quatre pattes. Valérie, on disait que pour toutes sortes de raisons, des fois, on doit malheureusement... je veux pas dire qu'on doit abandonner parce qu'il me semble que ça marche pas dans la même phrase. Oui, on doit laisser partir. Je suis sûre que vous tentez le plus possible de faire une sensibilisation à la responsabilité que c'est d'adopter un animal pour ceux qui ensuite viennent à votre refuge.
Oui. Oui, nous, c'est notre mission. C'est une grande partie de notre mission, c'est d'éduquer la population, de les sensibiliser à ça. Lorsqu'on adopte un animal, c'est une responsabilité pour plusieurs années. C'est pas un choix qu'on doit faire à la légère. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir adopter un animal, surtout quand il est bébé, un petit chaton, un petit chiot, c'est super mignon, c'est beau, puis sont attachants, oui, mais ça grandit, puis ça vient avec des responsabilités sur plusieurs années. Donc, nous, on essaie de sensibiliser les gens à cette cause-là qu'un animal, c'est comme avoir un enfant. Donc, il faut le réfléchir, puis c'est pas gratuit non plus. Même si on prend l'animal, souvent, il y a des gens qui vont donner des animaux sur les sites Internet comme Facebook et ces choses-là. Ils vont les donner gratuitement, mais un animal, c'est pas gratuit. Ça a besoin de nourriture, ça a besoin de soins, ça a besoin de plein de choses. Puis les soins vétérinaires, c'est pas donné. Puis un animal, ça vient pas avec une carte d'assurance maladie comme les humains. Donc, tout est à payer. Donc, les gens, ils vont adopter un animal, ils vont aller à l'animalerie, ils vont payer un chat 25, 30, 35 $ pour un petit chaton. Puis il est super mignon, oui, mais il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vermifuge, il n'est pas stérilisé. Et puis les gens, ils grandissent, puis là, ils deviennent tannants. Puis finalement, je suis tannée, puis je m'en débarrasse.
Oui. Donc, je comprends qu'à votre refuge, d'un côté, vous vous assurez que lorsqu'il quitte le refuge, il est mieux outillé, équipé. Là, donc, il a déjà reçu certains soins. Mais aussi que vous vous assurez de créer un bon jumelage avec l'âge, peut-être, la nature du chat.
Bien, pas juste l'âge. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un match parfait avec les adoptants. Donc, les gens, ils nous disent, ben moi, je veux un chaton. Mais on veut être sûr qu'ils sont conscients qu'un chaton, il y a une phase préadolescence, il y a une phase adolescence.
Ah, vous
à
continuez
la
sur
donc,
le lien, oui.
Il va être tannant comme un enfant. Tu sais, il va courir partout. Ça se peut qu'il y ait des nuits, qu'il fasse des nuits blanches, qu'il court dans la maison puis qu'il ne dorme pas. Puis ça se peut qu'il détruise vos bouquets puis qu'il saute sur les comptoirs puis sur la table. Fait qu'on lui fait comprendre cette portion-là. Ah, ouais, finalement, ouais, peut-être je vais prendre un chat un petit peu plus vieux. Ah, bon, OK. On y va vraiment pour avoir un match parfait. Nous, notre but, c'est que l'animal, il passe la vie là et qu'il ne revienne pas au refuge. Donc, les gens, on veut qu'ils soient conscients, puis quand ils adoptent, que ce soit une adoption pour la vie. Donc, on veut vraiment que ça clique entre l'animal et la famille. Puis, on a une période d'essai aussi à la maison qui permet aux gens de voir si ça fonctionne ou pas. Si l'animal arrive à la maison, puis ça marche vraiment pas avec les gens, ben, tu sais, on lui permet de ramener l'animal dans un délai X, et puis soit de faire une tentative avec un autre. Tu sais, des fois, c'est juste ça clique juste pas avec soit les enfants ou un autre animal qui ont déjà à la maison. Ou on permet même de rembourser pour éviter que l'animal soit adopté. Puis au bout de 6 mois, je m'en débarrasse finalement, ça marche plus. Puis on fait une période d'essai. Puis on fait vraiment remplir un questionnaire avant même l'adoption pour être sûr d'avoir le bon match.
Et comment vous réussissez à faire tout ça? Avec quel type d'équipe, Valérie, qui vous appuie dans cette mission?
Bien, en fait, j'ai une merveilleuse équipe. Là. J'ai des gens incroyables qui travaillent avec moi. J'ai d'autres membres fondateurs qui sont avec moi depuis le tout début.
Ceux qui ont répondu à l'annonce avec vous?
Oui, tout à fait. J'ai d'autres membres fondateurs qui sont là. J'ai des employés extraordinaires. J'ai beaucoup de bénévoles. Je ne pourrais pas fonctionner sans les bénévoles. Eux autres, on les oublie souvent, les gens, ils ont tendance à oublier les bénévoles, mais ces personnes-là sont juste incroyables. Ils donnent de leur temps gratuitement, puis ils viennent régulièrement, plusieurs fois par semaine. Ils passent du temps avec les chats. Ils viennent entretenir les chatteries, les cages. Eux autres sont incroyables. Je fais affaire aussi avec... j'ai une technicienne en santé animale qui est ici une journée par semaine. Les cliniques vétérinaires de toute la région, on travaille avec plusieurs cliniques vétérinaires pour offrir tous les soins aux animaux parce qu'on a des petites bêtes que... Ils n'arrivent pas toujours ici en santé, là. Des fois, ils en arrivent, là, ils sont très, très maganés par la vie, soit qu'ils ont, comme là, ces temps-ci, avec l'hiver, des engelures. On a beaucoup qui ont perdu leurs oreilles dernièrement, la queue qui a gelé puis qui a tombé. La queue a tombé à moitié, là. Puis les oreilles, il y en a qui ont perdu leurs oreilles à moitié, aux trois quarts, perdu les bouts d'oreilles. Donc, sont très, très blessés. Il y en a qui arrivent que, tu sais, se sont battus à l'extérieur parce que les matous qui sont pas stérilisés puis qui sont libres dehors à eux-mêmes, ben ça se bat. Donc, ça arrive avec plein de plaies, des blessures. Il y en a qui tombent malades, qu'on est obligé de faire euthanasier. Malheureusement, j'ai dû en euthanasier un encore hier soir qui était très, très, très malade.
Oui, j'ai lu votre billet sur Facebook. C'était, on lisait toute votre tristesse là, de ne pas avoir été en mesure là, de prolonger, mais le chat était déjà en mauvais état. Mais on le voit sur votre page Facebook, à quel point il y a de l'amour à travers tout ça. Puis comment on arrive, Valérie, à fonder en si peu de temps un organisme qui dessert maintenant 15 municipalités? Puis est-ce qu'on réussit à ce que ça soit soutenable financièrement?
On y arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de manque d'heures de sommeil, ça, on ne le cachera pas, des nuits très, très écourtées, beaucoup, beaucoup de patience et de conciliation du côté de la famille. Je ne vous cacherai pas que mon conjoint et mes enfants, je leur en dois beaucoup. Parce que j'ai pas été présente beaucoup dernièrement. C'est des longues heures, des longues journées de travail. Puis ils sont très compréhensifs. Je suis chanceuse, mes enfants sont quand même rendus assez grands, là. Ils sont capables de se débrouiller en partie tout seuls. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement, de temps. Au niveau financier, ben si ce n'était pas de la population qui nous aide énormément, on y arriverait pas. Oui, on a des contrats avec les municipalités, mais c'est jamais suffisant. Donc, on a beaucoup de soutien de la population. Les gens nous aident beaucoup. On a fait des GoFundMe. On a fait, avant Noël, on a fait un moitié-moitié. On a ramassé près de 20 000 $.
Ah, quand même.
Oui, c'est vraiment, là, les gens sont là, ils répondent présents. En fin de semaine prochaine, on fait une collecte de canettes et bouteilles. Les gens viennent nous faire des dons régulièrement, plusieurs fois par semaine. Il y a des gens qui rentrent au refuge, nous apportent des boîtes, des sacs de litière, de nourriture, des jouets, des arbres à chat, des divans, laveuses, sécheuses.
Ah oui.
Les gens sont vraiment généreux. Ils nous apportent des dons en argent, ils nous font des virements de dons en argent. On est vraiment chanceux parce que si ce n'était pas de la population qui nous appuie comme ça, on y arriverait pas. Ça, c'est sûr et certain. Les frais de vétérinaire, les frais des locaux, les frais des salaires et tout ça, c'est sûr qu'on n'y arriverait pas.
Donc, ça demande beaucoup de passion et d'engagement de votre part.
Oui, vraiment, vraiment beaucoup, parce que je vous dirais là que les membres fondateurs, on compte pas nos heures. On les compte pas. Le fait parce qu'on aime ça.
Est-ce que les enfants ont l'occasion de donner un coup de main avec les chats?
Ben nos enfants, nous, oui. Parce que malheureusement, c'est sûr que les enfants qui veulent venir nous aider au niveau des assurances et de la CNSST, ça prend 14 ans. Mais nos enfants, nous, ils viennent à l'occasion. Moi, j'apporte des fois des animaux à la maison. Là, dernièrement, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a eu des petits chatons de quelques jours de vie, pas de maman, qu'on doit biberonner jour et nuit. oui. Donc, encore, là, voilà deux semaines, trois semaines, là, j'avais trois petits chatons de 12 heures de vie là, que j'ai biberonné. Jour et nuit. Malheureusement, ils n'ont pas survécu, mais j'en ai un à la maison. Là, j'ai biberonné les quatre frères et sœurs. Et puis, il m'en reste seulement un qui a survécu, mais là, il est encore à la maison. Et puis, mon fils, il a biberonné plusieurs fois avec la petite seringue, puis ma fille aussi. Donc, oui, ils participent là, quand même là, en partie. C'est sûr qu'ils ne font pas les tâches de litière, là.
J'ai l'impression qu'à peu près tous les enfants et les ados sont récalcitrants.
Ouais, c'est ça. Mais quand vient le temps de cajoler,
oui, ils sont toujours là.
Le biberon, ça, sont présents.
C'est la même chose à la maison chez moi.
Exactement. Exactement. C'est comme quand on leur demande de vider de la vaisselle. Ça, ils sont pas trop présents, mais quand on leur demande quelque chose qu'ils aiment faire, ça, c'est « Oh, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire.
» Ceci dit, je pense, Valérie, il y a eu un beau projet avec une école de construction d'abris extérieurs. Parlez-nous-en.
Oui, tout à fait. Mais en fait, au début février, on a eu reçu des appels de gens qui avaient retrouvé des chats errants dans le bois proche d'une mine. Je m'excuse, j'ai un chat qui fait ses griffes à côté de moi. C'est sûr que vous entendez, là, il joue d'une boîte de carton. Donc, c'est ça, on a reçu un appel comme ça qu'il y avait des chats errants près d'une mine, puis on s'est mis à recevoir un autre appel, puis un autre appel et un autre appel. Et de fil en aiguille, ben on... Au total, nous, on a récupéré 31 chats dans le bois qui ont été attrapés à la main par des citoyens. Et on a su que le MAPAC en avait récupéré 22 aussi. Mm. Donc, c'est des gens qui avaient été, excusez l'expression, mais garrochés, carrément garrochés des chats dans le bois pour s'en débarrasser. Mm. Et au travers de la récupération de ces chats-là, des opérations de sauvetage, ben il y a trois classes de l'école Christ III qui ont, avec leurs professeurs et leurs parents, parti un projet pour fabriquer des boîtes, des abris, des bacs en plastique isolés. Donc, ils ont fabriqué ça en classe. Puis je m'en vais les rencontrer justement lundi matin. Je vais passer l'avant-midi à l'école pour leur montrer des photos de ce qu'ils ont fait. Puis
ah,
des
merveilleux. Chats qu'on
a ramassés. Ça l'a permis justement de faire des beaux abris pour que les chats puissent rentrer à l'intérieur, mais que les trous soient pas assez gros pour que les renards, les coyotes, les lynx, les loups puissent aller à l'intérieur. Puis c'était tout isolé avec des grosses couvertures. Puis ils pouvaient mettre des bols de nourriture. Ils ont été avec papa-maman acheter des petites cannes de nourriture, de chats. Et
mais
tout
Valérie,
ça.
Je vois là une belle façon d'enseigner autant les mathématiques et les sciences et enseigner les qualités humaines. Si on veut en savoir davantage sur votre refuge du cœur sur quatre pattes, site Internet, page Facebook surtout?
Oui, page Facebook, Refuge le cœur sur quatre pattes. Site internet www.refugelecoeursurquattepattes.com, 4 en chiffres. Et puis, on est toujours présent, bien actif sur la page Facebook surtout. Vous pouvez nous écrire via la page Facebook.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Vous êtes un cœur sur deux pattes.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
Notre prochaine héroïne anonyme s'appelle Marie-Ange Jeudy et elle a, on pourrait dire, un peu baptisé de son prénom. Elle s'en est inspirée pour créer l'organisme Les Anges de l'espoir qui agit à plusieurs niveaux. Mais je vais lui laisser la parole pour nous raconter un peu les différents volets de son organisation. Je vous la présente, Marie-Ange Jeudy. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour, bonjour Chantal, bonjour l'équipe des héros anonymes. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour l'accueil. Je suis vraiment touchée d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est l'occasion pour moi, quand vous m'avez rapproché, vraiment c'est une occasion de vous parler de cette belle association, cet organisme qui, premièrement, qui me tient à cœur, qui tient vraiment, qui est très essentiel pour la communauté. Mmh. C'est un organisme qui a été fondé depuis plus de 10 ans, depuis 2013, avec une mission simple, Chantal.
Oui.
Mais c'est essentiel. Cette mission, c'est de briser l'isolement, redonner confiance et accompagner ceux que le système laisse trop souvent de côté.
Oui.
Que ce soit les femmes violentées, les aînés, des nouveaux arrivants ou les médecins formés à l'étranger.
Ben oui, c'est ça, là, c'est qu'il y a différents sous-groupes. Et en fait, le but commun de votre présence à l'émission, c'est effectivement de saluer les gens qui aident à maintenir le filet social en place. Donc, c'est grâce à des interventions telles que les vôtres qu'on réussit à compléter un peu ce que l'État fait et de faire en sorte qu'on, ben c'est ça, qu'on brise cet isolement qui est trop présent. Donc, peut-être nous parler, là, parce que, bon, vous dites les médecins étrangers, et tu sais, spontanément, j'essaie de voir un peu, j'imagine qu'on parle à ce moment-là plus d'un isolement socio-professionnel, tu sais, versus, exactement, mettons, un immigrant qui n'est pas nécessairement un médecin ou une personne âgée ou autre, c'est différents types d'isolement que ces personnes-là vivent.
Exactement. Alors, c'est en 2013, quand l'association a commencé à travailler, c'est bien ce que tu dis, Chantal. C'est, vous savez, il y en a beaucoup de centres d'hébergement qui aident les femmes violentées, mais nous, notre travail était situé un peu plus sur le bien-être mental. Alors, c'est pour cela, en 2013, nous avons aidé plusieurs femmes violentées qui se situent dans les centres avec des activités mieux-être en santé. Alors, cette activité, nous allons vers ces femmes pour les donner vraiment espoir via des soins de beauté, de soins esthétiques. Mais l'idée dans tout ça, c'était premièrement que ces femmes puissent faire confiance avec un organisme comme la nôtre, et puis pour les attirer à avoir dans nos activités, dans les ateliers mieux-être mental que les professionnels font à l'intérieur, alors à l'intérieur de l'association. Dans le fond, c'est quoi? Nous établissons des liens avec les organismes et les femmes en les offrant des soins de santé, et après, les professionnels des Anges de l'Espoir qui sont dans les Anges de l'Espoir préparent des activités sur la santé mentale afin vraiment de compléter un travail pour pouvoir les aider à prendre soin d'eux et de leur famille.
Donc, qui sont ces professionnels? Parlez-nous un peu de votre équipe là, qui conçoit ces différents ateliers et soins de beauté, parce que j'imagine que c'est des compétences différentes. Là. Vous avez parmi vos employés ou des bénévoles là, des gens qui ont des compétences spécifiques à ces champs-là?
Oui, je vais vous donner la ligne directrice pour ne pas être mélangée, parce que quand on dit beauté, on dit santé, c'est deux choses différentes.
Mais souvent, alors, il y a des liens quand même, mais...
Les liens, oui, il y a un lien, vous allez voir, c'est pour ça qu'on appelle santé mentale et bien-être. Alors, nous organisons des journées de soins de beauté dans les centres d'hébergement, comme la coiffure, manicure, maquillage, réflexologie, pour redonner la dignité aux femmes. Et juste pour vous dire aussi, c'est pas seulement les femmes, il y avait des aînés, des personnes âgées. Ces journées sont, et les journées tombent sur les moments symboliques, comme les fêtes des mères, journée de la femme, la Sainte-Valentin.
Oui.
Mais ce sont des autres catégories de professionnels, comme les professionnels de la coiffure, les essais. Comme vous venez de dire, Chantal, il y en a un lien avec la santé mentale quand même, parce que ces professionnels de la santé va remonter la confiance en ces personnes via les soins de beauté. Comme on sait tous, nous les femmes, quand on est belle, on est prête à affronter le monde.
Ça remonte le moral, c'est sûr.
Exactement.
Vous dites que vous travaillez en collaboration avec des organismes. Donc vous déplacez dans ces centres d'hébergement pour offrir des mises en beauté.
Exactement. Alors nous déplaçons. Nous avons tissé des liens, des pourparlers avec les organismes qui sont au courant le jour que nous allons chez eux. Alors, lors des journées comme des journées spéciales, alors on va vers ces personnes pour pouvoir donner ces soins à travers. Nous avons visité plusieurs organismes vraiment sur la rive nord, la rive sud de Montréal, un petit peu partout, plusieurs centres d'hébergement avec une équipe de professionnels et de la beauté. Et puis après avoir, mais Et c'est servi, c'est une journée, Chantal. Mm-hmm. Alors, un matin, un exemple, c'est un matin, un samedi, on part là, on monte un salon de coiffure, l'esthétique, tous les professionnels sont là, la musique. Alors, on va couper les cheveux. Mm-hmm. Chaque personne a droit à 2-3 soins, peut avoir une coupe de cheveux selon les soins que la personne a choisi, la femme a choisi. Alors, notre but, c'est de montrer, regarde, vous vivez un moment difficile en ce moment, regarde, vous êtes toujours belle, et puis nous sortons cette beauté pour la plupart du temps, des fois, ça fait beaucoup de temps, la personne vit vraiment dans une déprime ou la dépression, des fois les cheveux sont longs, et puis la coupe est passée, ça fait un petit bout, alors nous, on va rafraîchir plutôt, excuse-moi, et puis maquiller, puis pour redonner confiance dans cette personne, alors nous cherchons le côté vraiment et psychologique à avoir le bien-être de cette personne. Et puis pour continuer, après avoir, pour vous dire Chantal, depuis qu'on est là, c'est un service qui est très bien accueilli et c'est pour cela les organismes, les centres d'hébergement, nous tissons des liens avec eux. Quand nous faisons des conférences dans le local de l'organisme Les Anges de l'Espoir, c'est à ce moment-là que nous pouvons premièrement inviter ces femmes ou les ex-hébergés de ces centres d'hébergement à venir dans nos conférences de santé mentale afin de compléter vraiment leur bien-être mental.
Mais là, pour le côté maquillage, coiffure, je vous écoute parler, puis la référence à laquelle, ce qui me vient en tête, c'est les ateliers Bel et Bien dans sa peau, là, au niveau de la Société canadienne du cancer. Je sais que ça a aidé beaucoup de femmes, justement, à prendre un moment soin pour elles et de se revoir dans un état ou dans un état de beauté dont elle s'ennuie un peu parce que c'est tellement difficile comme maladie. Je sais que ça a contribué à beaucoup de bien-être chez les femmes. Donc, c'est un peu un modèle de cette nature-là que vous offrez?
Oui, exactement. Exactement. C'est un modèle vraiment de bien-être à reprendre confiance en elle, surtout dans ces moments, soit de la maladie ou la violence. C'est un moment que la personne est au plus profond d'elle-même et surtout il y a la famille. Alors je pense que quand on regarde la famille, les enfants, souvent ces femmes ou ces personnes qui vivent des moments difficiles ont des jeunes enfants. Alors nous les anges de l'espoir, comme nous sommes là pour briser l'isolement, alors c'était dans cette optique-là que nous avançons vers ces personnes. Surtout on garde la ligne directrice qui est la santé mentale.
Et dites-moi, je comprends le lien avec la santé mentale. Ceci dit, vous offrez aussi des conférences en santé mentale. Donc là, c'est d'autres professionnels dans votre équipe ou des bénévoles?
Exactement. Alors, pour avancer avec la ligne d'ici, toujours dans le but de briser l'isolement, cette association a touché un groupe de personnes qui étaient vraiment isolées, qu'on parlait peu d'eux. C'était les professionnels de la santé. Alors, nous avons comme projet pilote, c'était les médecins qui vivent justement l'isolement, un grand isolement social. Quand un professionnel était vraiment, qui était utile dans son pays et arrive au Canada, cette personne se retrouve dans l'entrepôt, à travers au McDonald's, femme ou homme de ménage, il n'y a pas de saut de métier, mais c'était pas ça qu'il faisait. Mais vous comprenez, l'isolement, ou cacher même, avoir honte de dire que je suis ou j'étais médecin dans mon pays. Alors, c'est un isolement grave. Nous avons nous avons mis les doigts sur ce genre d'isolement que les gens ne parlent peu. Alors, nous avons décidé avec un groupe de médecins, justement, je ne suis pas médecin, mais on a travaillé avec plusieurs médecins. On a décidé vraiment de pouvoir aider ces personnes à sortir dans l'isolement via des formations cours intégration et pour les professionnels de la santé. Alors, Chantal, depuis 2013, l'organisme Les Anges de l'Espoir accompagne les médecins étrangers dans leur processus d'obtenir leur licence ici au Canada.
Donc, de réussir à toute la reconnaissance des acquis ou de passer les examens nécessaires pour pouvoir exercer leur métier?
Exactement. Alors, nous aidons à pouvoir tous les processus pour avoir la licence. Nous aidons du début de l'intégration comment inscrire au Collège des médecins. Nous avons des cours de préparation de chaque étape que le Collège des médecins demande. C'est pour ça que c'est une organisation aussi de formation. Alors, nous aidons les médecins dans tout le processus d'avoir et son équivalence jusqu'à la licence. Même quand le médecin est en résidence, les anges de l'espoir est là. Alors, nous avons mis sur pied afin de pouvoir les aider. Vu que nous n'avons pas d'aide, c'est un programme que nous faisons avec les moyens du bord. D'ailleurs, je salue tous les médecins qui se donnent dans les anges de l'espoir, qui font ce travail extraordinaire. Aujourd'hui, plus de 1123 médecins venant partout dans le monde fréquentent cette association. Plus
1123 médecins?
Oui, 1123 médecins.
Quand vous parlez de l'association, on parle toujours des Anges de l'Espoir ou il y a une association qui a été créée pour les médecins étrangers?
Non, toujours dans le cadre de briser l'isolement, c'est les Anges de l'Espoir.
D'accord. Et comment vous en êtes venu à voir cet isolement-là chez la clientèle? Parce que là, vous étiez dans un secteur vraiment plus, quand on parle de centres d'hébergement et autres, c'est dans un secteur où les gens ont des difficultés de vie et sont dans un centre d'hébergement. Et là, les médecins étrangers, comment vous en êtes venu à voir ces deux opportunités-là?
C'est pour cela, et Chantal, je parlais toujours, on garde la ligne directrice de la santé. Dans la santé mentale, c'est sûr, en aidant les personnes dans la santé mentale, on voit les professionnels de la santé aussi. C'est pour pouvoir approcher et ces personnes, aller vers eux, les coiffer, c'était un moyen. C'est un moyen quand même de pouvoir commencer par donner confiance en soi, maintenant pour pouvoir leur donner, et dans le cadre des ateliers sur le bien-être mental, on reste dans la santé mentale. Alors, pendant qu'on travaille avec eux, il y avait des médecins étrangers et puis d'autres professionnels de la santé qui sont intéressés sur vraiment le travail qu'on fait auprès de ces personnes. Et il faut dire aussi, dans les centres des femmes, il y a beaucoup de migrants qui sont là aussi. Beaucoup de migrants sont là. Premièrement, en touchant ce problème, cette problématique, on a trouvé, il y avait des médecins autour de nous qui souffraient. Pas dans le cadre de santé mentale, mais l'isolement. Là, quand on commence à rentrer dans le problème avec des professionnels autour de nous, même les médecins, il faut dire, Chantal, les médecins sont beaucoup dans l'isolement. C'est parce qu'on ne savait pas, parce que les gens ne voyaient pas. Ça se fait autour de vous, dans je sais pas, là où vous allez, dans le restaurant à côté de vous, dans le marché que vous allez, dans l'épicerie, la personne qui vous sert, ça se peut être un médecin. Mais c'est en parlant, vous allez découvrir qu'il y a un groupe de personnes qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont des médecins, mais qui souffrent.
Alors, qui ne veulent pas qu'on sache, Marie-Ange, parce que quoi, le décalage entre leur situation actuelle et le métier qu'elles avaient auparavant est trop grand, c'est trop difficile à vivre?
Non seulement c'est trop grand, et c'est... Et comment on les projette aussi. Et je vous donne un exemple. Il y a des médecins, ça arrive à quelques médecins, pendant qu'ils sont, je ne sais pas, font le ménage à l'hôpital ou dans une clinique, et puis quelqu'un qui connaissait dans son pays dit « Ah, docteur !» Alors, tout ce que cette personne va dire dans son milieu de travail, on va penser qu'il pense qu'il connaît plus que les autres. Je ne sais pas si j'ai bien l'expliqué. Alors, pour ne pas perdre son travail, alors cette personne va cacher elle est vraiment un médecin. Cette personne va vivre dans l'isolement par peur de perdre son travail. Ça arrive aussi. Il y a quelqu'un qui est préposé aux bénéficiaires qui dit « Je suis médecin ». Et puis, on va rire de lui. « Tu es médecin, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis, on va rire. Ça, comme c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cette personne va se refouler, va rester à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui ne travaillaient pas aussi. Quand on a commencé le programme, on a commencé à parler, faire la publicité, aller les chercher. On commence à les chercher. Ils venaient beaucoup, mais commence à avoir des pleurs. Il y en a beaucoup qui étaient dans la dépression, beaucoup qui étaient déprimés. On a dû, pour pouvoir les aider, on a dû les aider à travers des programmes, justement, de santé mentale. Pendant qu'on aide les femmes violentées, dans d'autres programmes, nous avons des médecins qui étaient là avec les travailleurs sociaux, avec nous, de pouvoir les remonter. Ça pleurait tout le temps. Et tout le temps, c'était l'endroit que les médecins venaient pleurer, étaient capables de dire combien de temps qu'ils souffraient, combien de temps qu'ils n'arrivent pas à exprimer qu'est-ce qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est pour ça, dans l'organisme Les Anges de l'Espoir, si vous venez dans l'organisme, vous allez voir, c'est « bonjour docteur, bonjour docteur ». Même si la personne n'a pas le droit de pratiquer, mais le...
On se projette dans la situation future.
Exactement. Okay. Alors, ça les aide aussi. Alors, c'est ce travail que nous faisons. Aujourd'hui, nous en sommes fiers de voir le résultat de notre travail. Oui. Les personnes qui étaient des livreurs de pizza, chauffeurs de taxi, nous en avons beaucoup aujourd'hui. Ce sont des médecins de famille.
Ben, bravo, on en a besoin de médecins de famille. Marie-Ange, je vous propose de faire une courte pause et on revient tout de suite au Héros Anonyme. De retour en studio pour notre dernier bloc des Héros anonymes, nous sommes en compagnie de Marie-Ange Jeudy, qui a fondé Les Anges de l'Espoir, qui est là comme ligne directrice de briser l'isolement de différentes manières. Et je pense que, si je comprends bien, Marie-Ange, votre équipe était à l'affût d'opportunités d'être utile, de briser l'isolement, peu importe là, dans quel secteur ça se produit. Dès que vous voyez qu'il y a un besoin, vous êtes en mesure d'y répondre, ou vous avez envie d'y répondre.
Oui, surtout, comme j'ai dit encore, surtout le côté psychologique. Ça nous tenait vraiment à cœur. Alors, comme nous aidons les femmes violentées, et la ligne directrice aujourd'hui, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de voir dans les médecins qu'on aide aujourd'hui, il y en a beaucoup, pendant qu'ils sont en train de préparer leurs examens pour le Collège des médecins, il y en a qui sont des infirmières, il y en a qui sont des travailleurs sociaux. Et c'est eux qui redonnent entre-temps à la communauté qui en ont besoin. Alors, si nous continuons avec la ligne directrice, encore, comme j'ai dit tantôt, 1123 médecins ont reçu l'aide de l'organisme Les Anges de l'Espoir. Des dizaines sont déjà intégrés le système de santé grâce à notre soutien. Ces professionnels deviennent des piliers de notre société. Et pour aller plus loin, Chantal, on n'est pas terminé, pour rester toujours dans le domaine de la santé. Parce que le chemin était très dur pour eux, alors ce groupe de professionnels avait décidé, je pense en 2017, on était assis, on a dit que nous allons vraiment lancer, après avoir leur licence, nous allons mettre sur pied une clinique communautaire pour aider aussi, nous aussi, les personnes à faible coût, les personnes à statut précaire.
Clinique
communautaire.
Mais dites-moi un peu, parce que là, dans l'actualité, on parle beaucoup ces temps-ci un peu des enjeux des médecins du public qu'on souhaite garder au public pour leurs 5 premières années. Donc, expliquez-nous un peu le modèle là, d'une clinique communautaire. Une clinique communautaire, est-ce qu'on est dans du privé? Comment ça fonctionne?
Alors, la clinique que nous projetons, nous voulons mettre un modèle d'après ce qui se passe, surtout pour les soins paramédicaux, un modèle de... déjà, avec le programme des médecins, les médecins, nous avons mis un modèle de données au suivant. Alors, chaque médecin qui devient maintenant médecin dans le système devrait donner quelques heures. Ils vont toujours travailler dans le système, mais le médecin va donner quelques heures à la clinique communautaire. Maintenant, c'est pour aider les personnes à statut précaire. Quand on parle des personnes à statut précaire, on fait allusion vraiment avec, je ne sais pas si vous êtes au courant, Chantal, il y en a des étudiants, des personnes qui rentrent au Canada et pour étudier, mais après quelques temps, 3 mois, la personne a perdu son statut. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne continuent pas à leurs écoles, qui n'ont pas de statut du tout, même pas une carte pour aller à l'hôpital. Alors, ils frappent notre porte tout le temps. Et surtout, ces personnes, ces migrants, vont vers les organismes communautaires. Les dirigeants des organismes communautaires peuvent en témoigner parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de demandes du côté de la santé. Et comme nous aidons les médecins, souvent les organismes, même communautaires, nous appellent. Marie-Ange, est-ce que vous avez telle chose chez vous? Est-ce que vous avez telle chose? C'est de là nous disons, il y a un besoin, nous devons agir. Alors la clinique communautaire, comment ça se fait? Nous allons, c'est une clinique que les personnes pouvaient donner juste une contribution. Une contribution qui va nous aider à pouvoir payer les professionnels.
Okay. Non, mais c'est que là, c'est ça, vous êtes dans un type de modèle hybride. Comment le collège des médecins, là, que vous les amenez, les médecins étrangers que vous avez emmenés vers le collège des médecins, comment ils réagissent à votre modèle?
Le modèle, parce qu'on parle plus les soins paramédicaux. Mm-hmm. Les médecins restent toujours avec le Collège des médecins.
D'accord.
Les médecins travaillent dans le système, mais quand on ne prend pas les soins paramédicaux, on voit la physiothérapie, mm-hmm. on voit les services de prise de sang, on voit, je vais donner un exemple, mm-hmm. et la physiothérapie peut être un service qui n'est pas donné. Même nous, qui sommes des Canadiens, nous, Québécois, si vous n'avez pas eu un accident de travail ou d'auto, vous devrez payer votre évaluation physiothérapie qui est très coûteuse, qui peut être dans les 150 $ même. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas d'argent du tout, qui a de la douleur. Une douleur, ça amène quoi? Ça peut amener aussi des problèmes vraiment sur la santé mentale que nous voyons tout le temps. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, nous allons travailler. Oui, nous pensons. Concernant la clinique médicale, c'est sûr, ça va pas être hybride. Le moment que les médecins vont se donner, ça va être toujours avec la RAMQ, comme le Collège des médecins.
Ouais, ouais.
Alors, ça reste comme ça. Mais pour les soins paramédicaux, qui sont des soins payants, alors ces personnes vont être juste une participation, une faible participation, et c'est justement, nous sommes en train de faire des demandes de dons, de travail avec les organismes pour voir les moyens de pouvoir donner ces personnes, que ces organismes puissent référer ces personnes qui en ont besoin, mais pour voir comment les organismes pouvaient contribuer avec les anges de l'espoir afin de pouvoir aider ces personnes qui souffrent.
Oui.
Et pour l'instant. Mais juste pour situer ça, le côté hybride entre privé et public, le côté médical, c'est pas ça. C'est pas.
Oui, merci d'avoir pris le temps parce que c'est des secteurs quand même qui sont assez sensibles ces temps-ci dans l'actualité. On parle d'immigrants, puis il y a aussi plusieurs de médecins formés au Québec qui décident d'aller de migrer au privé. C'est une drôle de formule, mais aussi d'aller travailler ailleurs qu'au Canada. Donc c'est des sujets, je pense, assez sensibles dans l'actualité.
Mais nous, notre modèle, c'est que nous aimerions que nos médecins donnent quelques heures dans la clinique communautaire qui seront quand même un modèle comme public, comme ils vont donner, voir les personnes, les patients ponctuellement, mais via d'autres services que les personnes payent, tandis que c'est un besoin. Je ne peux pas comprendre en 2025 de voir quelqu'un qui a, je ne sais pas, mal au dos ou a une foulure, mais cette personne reste pleure chez elle, n'est pas capable de trouver des soins et ça nous fait mal au cœur. Et puis c'est là, à ce moment-là, on dit comment nous pouvons se réunir afin que ces personnes puissent être soulagées, que ces personnes ne restent pas chez eux. Alors, il y en a beaucoup de besoins à ce niveau. Nous sommes en train de travailler très fort pour pouvoir aider ces personnes.
Puis je comprends que le fait d'avoir ces 1123 médecins dans l'association, dans les Anges de l'espoir, bien, dans le modèle de redonner au suivant, si vous les avez aidés à pouvoir maintenant pratiquer leur métier, bien, c'est une manière de redonner s'ils peuvent faire quelques heures de don de soi.
Oui, c'est exactement. Et ce modèle que nous avons mis sur pied vraiment pour pouvoir aider et de montrer aussi le Québec que nous sommes là, nous voulons contribuer avec cette belle terre d'accueil. Alors, ces professionnels sont là. Ce sont des potentiels que nous devons vraiment travailler avec pour aider les Québécois pour aider les Canadiens. Okay.
Dites-moi, Marie-Ange, si on veut en connaître davantage et peut-être vous aider dans le projet, devenir bénévole, vous avez un site Internet, une page Facebook peut-être?
Oui, nous avons un site Internet qui c'est angedelespoir-aci.com.
Oui.
Angedelespoir-aci.com. Notre téléphone, c'est 514-727-2643. 514-727-2643.
Excellent. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou Instagram ou autres médias sociaux sur lesquels on peut vous suivre?
Nous avons des pages médias sociaux, les Onges de l'espoir, ACI.
ACI, donc pour, c'est ça, je ne sais
Action
pas.
Action concertée internationale.
Action concertée internationale.
Oui.
Merci, Marie-Ange, de vous dévouer avec toutes ces personnes qui vous côtoient pour, c'est ça, briser l'isolement, vous l'avez dit. Et nous espérons que vous allez pouvoir continuer cette belle œuvre qui est la vôtre, votre grand positivisme.
Merci, Chantal. Merci. Merci à tous. Merci à l'équipe et Anonyme. Vous faites vraiment un travail extraordinaire. Vraiment, merci. C'est que les gens qui nous écoutent comprennent que les Anges de l'espoir, c'est plus qu'un organisme. C'est une main tendue, c'est une lumière dans l'ombre. C'est une réponse humaine à des détresses invisibles. Merci tout le monde.
Une magnifique conclusion, Marie-Ange. Moi aussi, j'en profite pour remercier notre extraordinaire équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté et Chantal Doré au micro. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien.